bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, c'est Sporama, on va refaire l'actualité sportive avec vous, chers auditeurs. On va évidemment refaire l'actualité, les résultats, les analyses et vos commentaires. Vous pouvez nous appeler en direct. Le numéro de téléphone 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Georges, Léonard Sagnot et Fred Nerkaïmit derrière la vitre pour prendre vos appels. On va saluer nos intervenants ce soir. Il est avec nous depuis Kinshasa, Thierry Kamboudi, Top Congo FM, notre station partenaire à via Skype. Bonsoir Thierry. Thierry, est-ce que vous nous entendez? On va saluer également Amine Birou qui est avec nous depuis Casablanca. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va également saluer Jules Valentin Goué qui est avec nous depuis Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Saluons également à Dakar Amdine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix d'Afrique.
Et enfin on va saluer Élisée Oumpatine qui est avec nous depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Voilà, on va essayer dans quelques instants d'avoir à nouveau Thierry Kamboudi de Top Congo FM. On va parler bien évidemment de ce tour de cadrage aller, hein, de cette Coupe de la Confédération. Hein. Les matchs ont commencé dès mercredi et un match nul un peu difficile, hein, concédé à domicile pour les Gabonais du CF Moulana face à El Masri. Un but partout, Jules Valentin.
Oui, un match nul difficile parce que les Gabonais sont pratiquement sans compétition. La compétition a du mal à démarrer. Donc les joueurs étaient assez petits sur le terrain, surtout qu'ils sont tombés sur une équipe de El Masri qui est quatrième dans son championnat égyptien et qui est encadrée par des célébrités, les frères jumeaux Ousmane Assam et Ibrahim. Donc, vous voyez, sur le terrain, on voyait l'équipe égyptienne venue surtout poser des banderilles à partir d'une défense renforcée et observer l'adversaire et probablement pour des calculs pour le match retour. Les Égyptiens ont marqué les premiers à la 14e minute et ils ont laissé venir les Gabonais. Et finalement, je crois qu'ils ont maîtrisé le match de la meilleure manière qu'il faut du début à la fin de la rencontre.
Oui, on avait également deux autres matchs. Hein. C'était vendredi soir avec le beau succès hein, du Rayon Sport du Rwanda contre Costa do Sol du Mozambique, 3-0. Et le Wits d'Afrique du Sud qui a fait match nul accroché par Enyimba du Nigeria, 1-0. On va prendre la direction de Dakar hein, où la génération foot est à 90 minutes. En tout cas, ce club sénégalais l'espère. D'une qualification pour cette phase de poule, puisque Génération Foot a battu 3-1 la Renaissance de Berkane. C'était samedi. On est optimiste, mais on attend. Hein. On a déjà été éliminé, évidemment, côté sénégalais plusieurs fois par Berkane. Et la Génération Foot, comment vous avez vu ce match qui a notamment vu un triplé hein, du joueur sénégalais et encore El Kaabi hein, qui a réduit la marque, qui avait plutôt ouvert le score, pardon. Comment vous voyez ce match? Comment vous avez vécu ce match, Amdine Sy?
Oui, ce fut un grand match entre deux belles équipes, il faut le dire. La Renaissance sportive de Bergame avait bien déclaré cette rencontre en ouvrant le score à la 35e minute par l'inévitable Ayoub El Kaabi, comme vous l'avez dit, le meilleur buteur et meilleur joueur du dernier champ de 2018 a montré qu'il était un renard de défense en ouvrant le score. Mais les poulains de Pérez sont revenus des vestiaires avec un autre visage hein, porté par un excellent Jean-Baptiste Diouf, un milieu de terrain qui a fait un très bon match. Il a servi l'attaquant Amadou Diagne qui a remis les pendules à l'heure. On jouait alors la 50e minute. Ce dernier est revenu hein, à la 50e minute, c'est-à-dire 9 minutes plus tard pour donner l'avantage aux Sénégalais. C'est toujours l'attaquant Amadou Diagne. Il marquera un coup de chapeau en inscrivant un troisième but au grand bonheur des supporters sénégalais. Avec cette victoire, la génération foot pourra voyager en toute sérénité au Maroc. Mais Nicolas Pino, il faut dire que rien n'est gagné d'avance puisque cette équipe de la Renaissance de Bergame a déjà éliminé une équipe sénégalaise. C'était Mbour Petit Côte. Donc, c'est vrai, les Sénégalais ont gagné la première manche, mais il faudra bien négocier la seconde match. La deuxième mi-temps, ce sera chez Amine Birouk dans 10 jours. Et j'espère que les Sénégalais vont se qualifier, puisque ça fait très longtemps, hein, depuis 2004, une équipe sénégalaise ne parvient pas à qualifier pour les phases de poule, puisque c'était l'Ajax de Dakar en 2004. Donc, ils sont tout prêts de rentrer dans l'histoire des jeunes de la génération foot, Nicolas Pinot.
Voilà, Amdine Sy, transition toute trouvée, passe transversale du côté du Maroc pour Amine Birouk, qui contrôle de la poitrine et qui oriente. Amine, justement, on le disait, hein, Berkane, finalement, hein, qui va devoir marquer deux buts, hein, au minimum au match retour pour pouvoir se qualifier. Hein.
Oui, on peut penser que du côté de Berkane, on voit le verre à moitié vide, dans la mesure où ils ont mené au score 1-0, où ils semblaient contrôler la situation, en tout cas en première mi-temps. Et puis en début de deuxième mi-temps, on a assisté à une métamorphose de Génération Foot, une équipe pétrie de qualité qui a fait ses preuves en tant que centre de formation. Les noms des joueurs qui ont été transférés en Europe est impressionnant et qui continue à posséder en son sein des talents, des petites pépites qui se sont illustrées en deuxième mi-temps, qui ont profité des nombreuses largesses défensives de l'équipe de Berkane, qui s'incline donc sur le score de 3-1. Mission difficile, il va falloir marquer à deux reprises sans concéder le moindre but. 1-3-1 équivaut à 1-0 largement. Il va falloir voir maintenant dans quelle mesure l'équipe de Berkane, dans une dizaine de jours, sera capable de remonter ce handicap sur une belle pelouse devant son public. Les derniers précédents en compétition africaine plaident pour une possible remontada, puisque le dernier match face à l'équipe du club africain, Berkane avait gagné sur le score de 3-1. La présence de joueurs comme Labako Djo en attaque et Ayoub Kabi sont des éléments qui peuvent inciter à l'optimisme, mais pour le moment, la première manche a largement tourné en faveur de Génération Foot.
Merci beaucoup. On va parler à présent de l'AS Vita Club, hein, qui était morose évidemment après son élimination en Ligue africaine des champions. On va écouter tout de suite l'entraîneur, hein, Florent Ibenge, qui parle évidemment de cette petite victoire face à La Mancha, le club du Congo-Brazzaville, avant d'entendre Thierry Kamboudi, qui est revenu, qui a chaussé ses crampons. Il s'échauffe sur le bord du terrain. On va écouter Florent Ibenge.
Quand on regarde le match, comment il s'est déroulé, on voulait, pour cette première manche, ne pas encaisser. Ça, c'était la première des choses. Ne pas encaisser et marquer. Donc, on a marqué, mais pas suffisamment comme on l'aurait voulu. Donc, ça, c'est le regret. Mais on est dans un match international à deux manches. Ne pas encaisser, c'est déjà une très bonne chose. Avoir marqué encore une. Et puis après, au match retour, bah, vous avez vu le jeu. Ce qui sera proposé sera différent. Il sera différent. Pourquoi? La manche, ça ne pourra pas rester derrière comme ils l'ont fait. S'il reste derrière, tant mieux pour nous.
Voilà, c'était Florent Ibenge. Ça y est, il fait son entrée en jeu. L'arbitre assistant a vérifié ses crampons. Thierry Kamboudi. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Ah, il est chaud, il entre sur la pelouse. Alors Thierry, on le disait, hein, petite victoire face à la Mancha. Hein.
Je suis très chaud, en plus il fait très frais parce qu'il a beaucoup plu à Kinshasa toute la journée. Petite victoire, mais assez précieuse pour l'AS Vita Club quand on voit, quand on revoit la physionomie du match. Vita Club qui a poussé et qui a touché du bois à 4 reprises, se payant même le luxe de manquer un penalty. C'était vraiment de la malchance pour ces joueurs de l'AS Vita Club. Le supporter qui grognait déjà sur les gradés ont dû attendre la 88e minute pour voir les Dauphins Noirs inscrire ce but. C'est un zombo le soir, comme on appelle l'association sportive Vita Club. Face à une formation de la Manche à des points noirs qui a joué avec un bloc bas et qui espérait procéder en contre pour prendre Vita Club de court comme l'ont fait quelques précédents équipes qui ont affronté les Verts et Noirs de Kinshasa. Donc cette précieuse victoire va permettre aux Dauphins Noirs de voyager avec un moral haut, car le club a enchaîné quelques contre-performances en championnat contre Sangabalende, notamment au Stade des Martyrs, et même son élimination malheureuse en Champions League. Le club qui nourrit de grandes ambitions cette saison espère donc aller défendre ou faire plus que défendre ce résultat à point noir lors de la manche retour. Mais l'équipe a, Florent Ibenge a l'équipe pour rejoindre cette phase des groupes, quitte à bien négocier la manche retour de ce tour de cadrage.
On va aller du côté du Bénin, retrouver Élisée Mpatine. Élisée, le WAC, hein, qui avait été sorti par le WAC marocain, le grand frère, on va dire, le WAC de Williamsville, le club de Côte d'Ivoire, qui s'est imposé 2-0, hein, face à la plus petite équipe, évidemment, du Deportivo Niéfang de Guinée équatoriale. Hein. On a fait l'essentiel, ça aurait pu être mieux, hein, côté du WAC. Hein.
Oui, une victoire, c'est précieuse, j'allais dire. Niéfang, n'oublions pas, qui a éliminé les Congolais du dernier club Motoba Pembe, qui était sur une série de matchs sans défaite dans la Mina, en attendant de démarrer les playoffs. Hein, dernier club Motoba Pembe qui a terminé premier. Cette équipe qui a terminé première devant l'Est du club, il faut dire que c'était la surprise, mais en face, il y avait William Zville qui a totalement dominé cette explication, une explication où les Ivoiriens ont le mérite de marquer à chaque mi-temps, hein, donc ce qui a permis une cette avance de 2-0 en attendant le retour du côté de Baka. Le football ivoirien n'est pas resté à match puisque la FEC aussi a réalisé une très belle performance. On attend les matchs de tout pour voir si les deux clubs ivoiriens pourront se qualifier pour la phase de poule puisque les Mimo ont eu recours à l'international togolais comme à Fintan Di Platini pour marquer le seul but de la rencontre. Les Ivoiriens aussi, les Mimo ont dominé cette situation, mais c'était sur la plus petite des matchs hein, que l'équipe de la FEC d'Abidjan a remporté le match. Donc les Ivoiriens ont réalisé un coup parfait, deux matchs, deux victoires à Abidjan, en attendant les matchs retour qui s'annoncent très difficiles.
Merci beaucoup. On va repasser du côté du Maroc hein, pour parler de cette victoire du Raja Casablanca hein, chez le Zanaco de Zambie. 2-0, intéressant hein, pour le Raja. Hein.
Très intéressant dans la mesure où le Raja réussit l'essentiel, s'imposer sur le score de 2-0. De mauvais augure avant le match. Le Raja vit une terrible crise financière, une terrible crise institutionnelle avec un président contesté par les adhérents du club. Et les derniers résultats dans le championnat marocain n'étaient pas également assez favorables. Donc beaucoup de supporters du Raja craignaient le pire face à une équipe de Zanaco qui avait figuré l'année dernière en phase de groupe de la Champions League. Et pourtant, à force d'abnégation, de rigueur, de concentration défensive, les joueurs du Raja ont réussi à tenir la dragée haute à leurs rivaux. Ils ont aussi profité de la vitesse de leurs attaquants de pointe, Yajour, Adras, qui avait été un des héros de la finale du dernier chef, et Ben Ali pour plancer quelques banderies en première mi-temps. Les choses ont été beaucoup plus réalistes en deuxième mi-temps, puisqu'à la 68e minute, le Raja a ouvert le score par Ben Halib. Ils ont aggravé la marque à un quart d'heure de la fin par Adraf. Ça fait un bon résultat pour le Raja qui va devoir confirmer au match retour à Casablanca devant son public une façon de revenir en fanfare des compétitions africaines puisque depuis la saison 2012-2013 où le Raja s'était qualifié pour la phase de groupe de la Champions League, on n'avait plus vu l'équipe finaliste du mondial des clubs à part et faite. Il faudra tout de même confirmer parce que les Zambiens vont arriver avec l'impression de n'avoir rien à perdre à Casablanca. Et donc on verra si le Raja, qui a montré deux visages, un visage plutôt séduisant en Afrique, un autre un peu plus tard en championnat, pourra confirmer ses bonnes prédispositions.
Oui, on rappelle que dimanche, hein, la Douana Star du Ghana a fait exploser hein, les Malgaches de Fossa Junior 6-1. Al Hilal du Soudan s'est imposé 2-0 face à Akwa United du Nigeria. Petite victoire de l'ASEC Mimosa, mais victoire précieuse face à Belouizdad d'Algérie. 1-0. Gor Mahia du Kenya qui s'impose devant Supersport United 1-0. Et puis le beau succès en déplacement du Djoliba de Bamako au Nigeria sur la pelouse de MFM. On suivra évidemment les tours retour de cette Coupe CAF 2018. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. On n'arrête pas Georges Léonard Sagnou qui danse sur la table, hein, les amis. Il est chaud. On va parler à présent hein, des affiches des quarts de finale de la Champions League, la Ligue des Champions. C'est bien évidemment la piste aux étoiles à partir de mardi soir en Europe. Il reste 8 équipes et 4 équipes ont déjà pris une sérieuse option sur la qualification en demi-finale. On va commencer par le choc anglais. Hein. L'Europe ne s'est pas encore remis finalement de cette défaite. 3-0 infligée au futur champion d'Angleterre, Manchester City, et Manchester City qui a encore perdu, notamment à cause de Paul Pogba qui a inscrit un doublé pour Manchester United ce week-end. Alors finalement, la question qu'on se pose, Andinsi, est-ce que l'équipe de Pep Guardiola, qui devrait logiquement être championne d'Angleterre, mais est-ce qu'elle, finalement, c'est pas une déconvenue de trop, et cette défaite 3-0 au match aller, est-ce que vous pensez qu'ils vont renverser la vapeur? Petit élément à noter en tout cas, du côté des Reds de Liverpool, Mohamed Salah est incertain, Mohamed Salah c'est le meilleur buteur de la première ligue avec 29 réalisations. Il est incertain, il avait été touché au match aller, il avait été obligé de sortir en seconde mi-temps. Est-ce que vous pensez, Amédine, que les Citizens vont pouvoir renverser la vapeur?
Tout à fait. Si on regarde l'équipe de Manchester City, on peut se dire qu'ils sont capables quand même de faire cette remontada, puisque si on se rappelle de la dernière rencontre contre Liverpool, ils avaient mis 5-0. C'est vrai que Sadio Mané avait écopé de carton rouge. C'est vrai que ce jour-là, Liverpool n'avait pas tiré son épingle de jeu. Mais je pense que dans un bon jour, les poulains de Pep Guardiola peuvent renverser la vapeur pour décrocher cette qualification. Mais comme on le dit, un match ne ressemble jamais à un autre, puisque lors de la première match, la première mi-temps a été catastrophique pour les joueurs de City, qui ont été mangés, bouffés par cette attaque menée par Salah et Sadio Mané. Et pour cette seconde match, Salah est incertain et je pense que l'isoler Sadio Mané, c'est pas la mer à boire pour les défenseurs citizens. Et je dirais que c'est vrai que Liverpool battra une nouvelle fois avec la faveur des politiques, mais attention, attention, si on regarde les 4 quarts de finale, je pense que Manchester City a plus de chances de faire cette remontada. En tout cas, moi, Nicolas Pino, je crois à la qualification des citizens.
Merci beaucoup, Amédine. On va aller du côté de Jules Valentin-Goué hein, pour parler aussi de l'autre quart de finale de mardi soir. Là, l'UFC Barcelone, évidemment, les Blaugrana, 4 buts 1 au match aller, l'avait emporté face à l'AS Rome. Là encore, on peut dire évidemment, il y avait eu 2 buts contre leur camp de la part des Romains. On va dire également, Jules Valentin-Goué, que normalement, hein, l'équipe de Lionel Messi, qui est toujours en route pour un triplé encore assez consécutif, on pourra dire évidemment que les Blaugrana, s'ils sont sérieux, devraient logiquement se qualifier.
Oui, en principe, Barcelone devrait se qualifier, mais il a eu beaucoup de chance parce que lors du match aller, la Roma a joué crânement sa chance et ma foi, le score lourd de 4-1 ne reflète pas vraiment la réalité sur le terrain. Et parce que tactiquement, les Romains ont su contenir les Barcelonais sur leur immense stade où ils imposent souvent leur loi de l'espace à tous leurs adversaires. Mais à 4-1, face à une équipe comme Barcelone qui tient le ballon, et il est difficile de voir la Roma faire une remontada. Je pense que, franchement, Barcelone a déjà un pied et demi en demi-finale.
Et on aura bien évidemment mercredi hein, cette rencontre au Stade Santiago Bernabéu, le Real qui accueille avec 3 buts d'avance. La Juventus de Turin, là encore on ne donne pas cher hein, des Italiens et tout le monde rêve encore Thierry Kambundi de cette bicyclette parfaite ou pas de Cristiano Ronaldo. Moi j'étais au Stade de France hein, quand Monsieur Mboma, évidemment le Camerounais avait inscrit, Patrick Mboma avait inscrit cette fameuse bicyclette au Stade de France. Est-ce que selon vous, voilà, c'est la plus belle de tous les temps, comme les amoureux du ballon rond qui sont fans de Cristiano Ronaldo le suggèrent?
Non, moi je préfère d'ailleurs la retournée de Zinedine Zidane en 2002, en finale de la Champions League face au Bayer Leverkusen. Zinedine Zidane l'a dit d'ailleurs en conférence de presse après le match contre la Juve à Turin que la sienne était la meilleure. Bon, bref, il y a eu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux des joueurs qui ont refait cette bicyclette. Mais il faut saluer hein, le geste de la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui l'a remis au lendemain ou à la veille du match contre l'Atlético Madrid à l'entraînement. Il a d'ailleurs accordé une interview à nos confrères de TF1 dimanche pour dire qu'il essayait de le faire, qu'il répétait ce geste aux entraînements et là ça marchait dans cette rencontre. Bref, on ne s'attend pas à ces gestes qui ne vient pas ou n'arrive pas tous les week-ends. On s'attend à voir une équipe turinoise plus ambitieuse, qui va tenter des choses et qui va ouvrir son jeu, qui va se lâcher justement à Santiago Bernabéu, le terrain de prédilection ou le jardin de Cristiano Ronaldo et les siens, qui vont également, puisque adorant ce style de jeu, en profiter pour se déployer et essayer d'assurer leur qualification pour les demi-finales. Donc c'est un match ouvert, même si le Real avait ses 3 buts marqués à Turin, quasi assuré de disputer la demi-finale. La Juventus et Turin s'est refait une confiance en championnat en s'imposant 4-2 face à la lanterne rouge de la Serie A avec un triplé de Dybala. On espère justement voir une équipe turinoise transformée, transcendée, qui va essayer de titiller jusqu'au bout ou d'y croire jusqu'au coup de sifflet final à Santiago Bernabéu, même si ça sera très très difficile, parce que cette équipe du Real est en confiance et sur une dynamique très positive depuis janvier, et cette équipe du Real est plus que jamais déterminée à réussir à le triplé historique en Champions League. Zinedine Zidane a sorti Cristiano Ronaldo à l'heure de jeu contre l'Atlético Madrid le week-end. Il a fait jouer Benzema en seconde période, c'est vous dire Benzema et Asensio. Isco également est entré en cours de match. C'est pour vous dire que Zinedine Zidane a préservé ses joueurs et tient absolument à plus que jamais d'ailleurs à cette Champions League qu'il compte aborder avec une équipe qui a le moral haut en ce moment.
Et merci beaucoup. On va saluer évidemment également la prochaine rencontre entre le Bayern et le FC Séville avec un avantage de 1 petit but pour les Allemands qui sont favoris. Et puis on va partir du côté du Maroc pour parler avec vous de cette tuile pour l'équipe tunisienne. Amine Birouk, notre spécialiste du foot maghrébin. Évidemment, Youssef M'Sakni qui s'est blessé en championnat au Qatar et qui malheureusement pour les Aigles de Carthage n'ira pas en Russie. C'est un coup dur.
C'est un très gros coup dur, même si en Tunisie on tente de minimiser en disant que ce n'est qu'une rupture partielle des ligaments, qu'il faudrait attendre d'autres examens médicaux. On parle même d'un chirurgien spécialisé qui viendrait des États-Unis pour pouvoir examiner le joueur qui est sorti du banc de touche dans un match banal du championnat du Qatar, mais il est vrai qu'il s'est livré tout au long de la saison à une concurrence avec son coéquipier le Marocain Larabi pour le titre honorifique de meilleur buteur du championnat. Donc à un moment il est rentré pour pouvoir planter sa petite banderie, marquer son but, un effort inutile puisque non seulement il ne finit pas meilleur buteur, mais en plus de ça il compromet ses chances d'aller en Coupe du Monde. Il faut juste rappeler que M'Sakni c'était sa dernière saison au Qatar et qu'il rêvait d'un point nord pour revenir en Europe. Non seulement il prive la sélection tunisienne, ou il se prive d'une participation en Coupe du Monde, c'est le meilleur atout offensif de la Tunisie avec Wahbi Khazri, et en plus de ça, la possibilité de taper dans l'œil des recruteurs européens qui verraient en lui une possible option offensive dans un club peut-être en Ligue 1 en France, c'est râpé pour le moment. La Tunisie, on rappelle qu'elle est dans un groupe très compliqué avec notamment l'Angleterre et la Belgique. Sans Youssef M'Sakni, c'est peut-être 80% du potentiel offensif de la sélection tunisienne, qui n'a pas brillé lors des éliminatoires par son jeu offensif, qui a été beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus disciplinée. C'est le grain de folie, c'était Youssef M'Sakni qui pouvait l'amener.
Merci beaucoup. On va vous annoncer également que Fernando Torres annonce qu'il va quitter l'Atlético Madrid d'ici l'été. Le Colchoneros est âgé de 34 ans. Il avait débuté évidemment avec l'Atlético à l'âge de 17 ans, avant de connaître évidemment la carrière que l'on sait. On va vous donner également quelques résultats au jeu du Commonwealth pour vous dire que le Sud-Africain Akani Simbine a causé une énorme surprise en battant en finale le Jamaïcain archi-favori Johan Blake lors du 100 mètres. Le vainqueur de cette finale a réussi la deuxième meilleure performance de l'année. Et puis sur natation aussi, ça va bien pour les Sud-Africains puisque Chad Lucklow a remporté le 50, le 200 et le 100 mètres papillon. Voilà, ainsi va s'achever ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier Thierry Kamundi qui était avec nous via Skype depuis Kinshasa. Bonsoir Thierry. Voilà, Thierry qui va se coucher. On va saluer Amine Birou qui est avec nous depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas et à la semaine prochaine.
On va saluer Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Au revoir également à Jules Valentangoy à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Et enfin, le meilleur pour la fin, Amdine Sy qui était avec nous depuis Dakar. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
On va remercier Georges Léonard Sagnot, Frédéric Caillemite pour la mise en onde de cette émission. Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama. 19h. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.